Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte! Bonjour, ici Laetitia. Dans cet épisode, j'accueille Patrick, jardinier urbain passionné, aux manettes du compte The Frenchy Gardener sur Instagram. Patrick a commencé à jardiner en 2019 sur son petit balcon berlinois, sans avoir jamais planté une graine auparavant. Aujourd'hui, son balcon est un véritable potager à ciel ouvert et Patrick déguste ses propres légumes toute l'année. Il nous raconte son parcours de jardinier urbain néophyte et vous donne de précieux conseils si vous aussi, vous souhaitez démarrer un petit potager de balcon. Salut Patrick, merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte.
Eh ben, merci à vous, ravi de pouvoir faire partie de ce premier podcast.
Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire comment tu es devenu jardinier urbain ?
Donc, je m'appelle Patrick, donc mon nom sur Instagram c'est The French Gardener. J'ai 38 ans, j'habite à l'heure actuelle à Berlin. Comment je suis devenu jardinier urbain? En fait, totalement par hasard. c'était vraiment un hasard. J'ai jamais eu de jardin, j'ai jamais eu de balcon, de terrasse, jusqu'à mon passage à Amsterdam. Et je me souviens, on était à peu près vers la fin du printemps. Et c'est un peu le moment où tout le monde va dans des magasins de jardinage, acheter des fleurs pour son balcon. Et du coup, je faisais partie de ces gens-là. Et en fait, à l'entrée du magasin, il y avait des étagères avec plein de graines. Donc des graines de radis, laitue, tomates. Et du coup, en tant que, j'ai envie de dire, citadin urbain, on a souvent ces petits achats impulsifs. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est top, j'adorerais commencer à faire pousser mes propres laitues, mes propres radis sur mon balcon. Et puis, c'est la première fois que j'ai un balcon dans ma vie, donc pourquoi pas. Et en fait, je me suis lancé, donc vraiment achat impulsif. je doutais déjà, en fait, je pense, parce que je me disais déjà, est-ce que je vais arriver à avoir de belles laitues, de belles tomates sur mon balcon? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps en soi? Et je me suis vraiment posé cette question et en fait, je me suis trouvé assez, extrêmement limité en termes de connaissances sur le jardinage. Et en fait, quand je suis arrivé à la maison, j'avais mon sachet de graines, j'avais quelques pots, j'avais mon sol. J'étais là, mais par où commencer? Et en fait, j'ai vraiment commencé de rien, sans connaissances. Et depuis, c'est devenu une véritable passion. Donc, ça fait quasiment 2 ans maintenant que j'ai ma petite jungle urbaine et mon petit potager urbain. Donc voilà, et j'essaye de partager cette passion du mieux possible.
Super. Et les lecteurs et les lectrices de Vert Magazine te reconnaîtront peut-être, puisque tu étais chroniqueur dans les 4 premiers numéros du mag, avec le journal de bord de ton potager urbain, dans lequel tu nous racontais les aventures de ton potager, ce que tu avais fait, ce qui avait marché, ce qui avait raté. Donc c'est super. On aime bien parce que du coup, tu es un vrai débutant, tu étais en tout cas, maintenant tu as beaucoup évolué, et c'était très intéressant de te voir plonger dans cette aventure du jardinage urbain.
C'était un plaisir aussi de commencer à écrire en fait sur cette passion et de partager mes premiers pas.
Est-ce que tu te souviens de la toute première plante du coup que tu as fait pousser? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
Donc en fait, j'ai commencé avec radis et laitue. Et du coup, comment ça s'est passé? Il s'est passé que quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, faut planter maintenant. Et en fait, je savais absolument pas, le dosage de graines. Donc, en fait, au début, j'ai pris un pot, j'ai mis un peu de sol et puis j'ai mis quelques graines dedans. C'était la première fois que je plantais une graine de ma vie. Je me suis dit, Peut-être que ça a poussé, peut-être pas. Et au final, au bout de quelques jours, mes laitues, j'ai vu des petites pousses vertes dans mon pot. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir inventé le feu, quoi. D'avoir genre waouh, j'arrive à faire pousser quelque chose. Mes graines ont marché, etc., etc. Et du coup, je pense que l'anecdote que je donne souvent, c'est sur les radis. Dans le sens où j'ai planté juste une graine de radis dans un pot parce que je me suis dit à mon avis vu que la laitue une graine ça donne une énorme laitue, à mon avis une graine de radis ça va donner une botte de radis et bon voilà et du coup j'étais un peu surpris du résultat
ou déçu alors.
Exactement, au début j'étais genre ok, donc en fait une graine égale un radis, d'accord. Et du coup j'ai vraiment appris sur le tas et j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait en ligne pour essayer d'avoir les connaissances de base, quoi.
Très bien. Et tu disais que ça avait été un peu un achat impulsif à la base, ces petits sachets de graines, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait donné quand même envie de jardiner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaillait un peu là-dessus? Ou c'était un pur hasard?
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est je suis un bon vivant, donc j'aime bien les bonnes bouffes. Et c'est vrai que j'avais regardé un documentaire sur M6 qui parlait notamment en fait de, je crois que le titre c'est Hold Up sur nos fruits et légumes. Et du coup, ça m'avait pas mal ouvert les yeux en fait sur le fait que nos légumes, nos fruits ont perdu énormément en fait de qualité, de nutriments en seulement quelques années en fait. Et du coup, ça m'a vraiment, je pense, ouvert l'esprit sur l'agriculture biologique et sur la qualité en fait des produits que j'achetais et que je consommais. Et je me suis dit qu'en faisant pousser moi-même, du coup, j'avais un contrôle sur ce que je pouvais manger. Mmh. Et vu que je suis un très bon vivant, j'aime bien les bonnes laitues, j'aime bien les belles bottes de radis. Et donc, du coup, ça m'a vraiment motivé. Et je pense qu'après, il y avait aussi le fait que mes grands-parents avaient une petite maison de campagne en Normandie. Et quand j'étais gamin, je voyais souvent mon grand-père arroser le jardin, etc., etc. Et donc, du coup, je pense que tout ça combiné, ça m'a donné, entre guillemets, envie de commencer. Ouais.
Et toi, dans ton enfance, tu étais quand même en contact avec la nature. Tu avais un petit jardin où tu as vécu vraiment une enfance très citadine et du coup, tu as dû remonter à des souvenirs vraiment plus enfouis.
Ouais, j'ai toujours vécu en ville, hein, donc toujours vécu dans des grandes villes, donc Paris, Amsterdam, Berlin. Et c'est vrai qu'il y avait juste quelques week-ends avec mes grands-parents où j'étais un peu plus proche de la nature, mais concrètement, j'avais peur des abeilles, les guêpes, n'en parlons pas, j'avais aucune connaissance, des fleurs. Encore une fois, j'avais vraiment jamais planté une graine, quoi. Donc en fait, je pense que c'est ça qui fait que la beauté du potager urbain permet, en fait, même sur le tard, de découvrir la nature, de découvrir l'écosystème. Et puis de faire pousser les choses soi-même. Donc j'ai attendu 36 ans en fait pour planter ma première graine, donc mieux vaut tard que jamais.
Donc ça c'était en 2019, c'est ça?
Exactement, ouais.
2019, donc tu plantes cette première graine de radis qui malheureusement ne donne pas une botte de radis, mais un simple radis. Et après, donc comment tu as évolué, comment tu as fait grandir ton potager urbain? Est-ce que tu y allais petit à petit ou est-ce que tout content de ce premier succès quand même, malgré la déception de ne pas avoir la botte de radis, est-ce que tu y allais à fond? Comment ça s'est passé?
Au début, je pense que j'ai acheté juste, vraiment le strict nécessaire, quoi. Donc quelques pots, du terreau, quelques graines. Et puis en fait, ces premiers succès donnent envie en fait de découvrir plus et du coup, je me suis informé, j'ai discuté avec d'autres personnes, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et du coup, après, je me suis dit, d'accord, en fait, donc les tomates, ça prend quand même énormément de temps. Donc, du coup, il faut que je fasse mes semis. Donc, du coup, après, j'ai acheté des petits ustensiles pour faire mes semis. Et après, je me suis dit, les laitues, en fait, si on a une table de jardinage, je peux en mettre plusieurs. Et du coup, c'est mieux. Et puis, je peux protéger la table de jardinage. Donc, j'ai vraiment été, j'y ai été crescendo en fait petit à petit et en fait assez rapidement globalement parce que je pense que quand on démarre le jardinage ou quand on a envie de le faire, c'est assez compliqué en fait de connecter toutes les pièces du puzzle parce qu'il y a beaucoup de connaissances. C'est un peu une boîte de Pandore. La plupart du temps, on ouvre une première vidéo et puis après, ça mène à un autre article et puis à un autre article. Et puis après, mais j'ai pas tenu compte de l'exposition. Et puis, j'ai pas tenu compte, en fait, de, par exemple, les besoins en eau de cette plante. Et puis, j'ai pas bien regardé quand il faut la planter et quelle saison. Donc, je pense qu'au début, c'est complexe.
C'est presque un peu stressant au début.
Un peu. C'est vrai. C'est un peu genre... comme si on est devant un puzzle avec plein de pièces dans tous les sens et on essaye petit à petit de tout assembler. Donc voilà, et c'est pour ça que, notamment Vert Magazine, j'ai adoré évidemment vos premiers numéros parce que vous arrivez vraiment à faire un condensé d'informations qui permet justement de rassembler toutes ces informations en quelques pages. Donc, je pense que j'aurais bien aimé avoir Vert Magazine quand j'ai débuté mon potager urbain. Ça m'aurait sauvé pas mal de temps.
Merci. Et alors, toi, tu as toujours jardiné sur balcon, d'abord à Amsterdam et puis aujourd'hui à Berlin où tu es installé. C'est un des principaux challenges pour les jardiniers urbains, c'est d'avoir un espace limité et un espace hors sol. Comment est-ce que tu t'es organisé? Comment tu t'organises encore aujourd'hui pour optimiser ton espace, pour organiser tes cultures?
En fait, c'est clairement la clé du jardinage urbain, c'est utiliser au mieux son espace vertical. J'ai eu une expérience en fait, qui était entre Amsterdam et Berlin, où j'avais quand même des espaces qui étaient relativement grands, entre 15 et 20 mètres carrés, beaucoup d'espace. Et j'ai eu 2 mois où en fait, j'ai eu 3,5 mètres carrés de balcon. Et j'ai dû caser toutes mes plantes, en fait, dans cet appartement temporaire sur 3,5 mètres carrés. Et du coup, ça m'a vraiment forcé à me dire, mais comment est-ce que je peux optimiser le placement des pots, etc. Et en fait, quand on utilise l'espace vertical, on se rend compte, en fait, qu'on a énormément de place. Il suffit juste de bien utiliser, par exemple, les rambardes qu'on peut avoir sur son balcon. Rien que ça, on peut évidemment mettre une jardinière sur la hauteur. Mais entre la jardinière et le sol, il y a énormément d'espace. Et on peut faire tout un tas d'aménagements en fait, pour avoir plus de pots. Plus on a de pots, plus on peut faire pousser et expérimenter plusieurs variétés. Je suis un très gros fan des tables de jardinage. Du coup, les tables de jardinage, c'est entre guillemets des tables un petit peu surélevées où il y a un volume de sol en fait, qui est quand même assez conséquent, hein, entre 40 et 50 litres de sol, donc ce qui permet quand même d'avoir un beau volume et de pouvoir faire pousser, par exemple, dans une table de jardinage, je fais pousser environ 12 laitues, par exemple, ou 3 bottes de radis. Et ces tables, en fait, elles permettent vraiment de libérer de l'espace au sol. En fait. Donc on peut stocker aussi tous ces pots, on peut mettre d'autres pots ou d'autres variétés qui ont besoin de plus d'ombre sous ces tables de jardinage. Sur un petit balcon, on peut trouver tellement d'aménagements possibles. Et il faut penser aussi, par exemple, si on a un plafond, entre guillemets, sur son balcon, on peut aussi accrocher des pots. Il y a tout un tas d'étagères qu'on peut mettre pour accueillir plus de pots. Donc je pense que vraiment, on peut, faut essayer d'apprivoiser, entre guillemets, son espace. Le plus important, je pense, part de l'exposition. Quelle est l'exposition de son balcon ? D'essayer de savoir les endroits où il y aura plus de soleil, les endroits qui vont être abrités du vent, et de faire un petit peu son mapping de son balcon. Et au fur et à mesure, on l'apprivoise et on arrive à optimiser en fait, au mieux même un tout petit espace de 3-4 mètres carrés.
Ok, donc c'est travailler la surface verticale en prenant bien en compte l'exposition, et notamment d'ailleurs quand on travaille en vertical, comme tu me le disais, il va y avoir des jardinières qui vont être en dessous de celles qui sont un peu plus en hauteur, donc qui vont être plus à l'ombre. Donc c'est à la fois l'exposition et en même temps l'ombre créée par les jardinières entre elles qu'il faut prendre en compte. Et puis j'ajouterais peut-être juste pour ceux qui ont des balcons, notamment dans les résidences anciennes, mais pas que, de se renseigner quand même bien sur la charge, le poids que peut supporter un balcon. Donc ça, on le demande au syndic de copropriété pour être sûr de pas trop charger, parce que ça peut parfois peser lourd, hein, les jardinières, la terre. Normalement, il n'y a pas de souci, mais il vaut mieux vérifier. Toi, tu as une petite spécificité supplémentaire en plus de l'espace hors sol et limité du balcon, c'est que tu as habité quand même dans des climats froids, Amsterdam et Berlin. Est-ce que tu as dû aussi t'adapter à la météo? Comment tu as procédé?
Je pense qu'en effet, c'est un des conseils aussi, je pense, que je donnerais aux nouveaux jardiniers. c'est que la plupart du temps, en fait, quand on regarde sur Internet, vidéo, on a des indications sur il faut planter telle laitue à telle date. Ok, c'est une indication, en fait, quoi. Parce que le plus important, c'est de composer avec la nature. Et en fait, on réalise très vite que la nature et les saisons, elles dictent leur rythme, en fait. Et nous, notre rôle, c'est, un, d'observer, et puis deux, après, de s'adapter. Et je pense que selon les climats, il y a énormément de différences, quoi. Donc, quand on regarde, par exemple, des personnes qui démarrent des semis de tomates maintenant, des personnes qu'on a démarré il y a déjà 2 mois, en fait, il ne faut pas paniquer. Chacun a son temps, chacun a ses saisons. Et là, par exemple, à Berlin, on a eu de la neige là aujourd'hui.
On a eu le 6 avril, je précise.
Exactement. Et donc, du coup, je me dis, bah, heureusement que je n'ai pas mis mes tomates dehors, par exemple, parce que sinon, les tomates n'auraient pas super aimé.
Ça t'est arrivé au début de vouloir peut-être y aller un petit peu trop vite. Je pense qu'on est tous passés par cette étape où on commence très tôt la saison.
Clairement, ouais, bah, parce que ça démange, entre guillemets, parfois de vouloir démarrer. Et je pense que le jardinage, ouais, apprend beaucoup la patience, en fait. Et quand on fait pousser un semis de tomate qui prend plusieurs semaines, puis ça prend temps et puis de l'attention, quoi. Et puis on a envie d'avoir un résultat. Une erreur ou une impatience peut globalement annihiler tous nos efforts, quoi. Donc je pense que le côté patience est extrêmement important. Et après, le côté saison. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est bien regarder, en fait, la dernière date de gel possible là où on habite. Et en fonction de cette date de gel, on peut planifier tous les semis, parfois 6, 4, 8 semaines avant. Mais globalement, il ne faut pas se laisser influencer par ce qui est écrit. C'est vraiment la date de gel, la dernière date de gel possible qui, par exemple, pour moi, est indiqué à Berlin fin avril. Pour d'autres, ce sera plus tard. Pour d'autres, ce sera plus tôt. Donc, il faut vraiment composer avec son climat. C'est ça qui est extrêmement important.
C'est vrai qu'on le dit souvent, nous aussi. On parle de rétro-planning, en fait. On part plutôt de la fin, de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre les plants en extérieur pour planifier les semis, plutôt que de regarder à quelle date on peut démarrer les semis le plus vite possible et se lancer tête baissée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à récolter toute l'année? J'imagine qu'au début, tu as plutôt commencé printemps, été. Est-ce qu'aujourd'hui, tu jardines non-stop?
J'aimerais bien. C'est vrai que je suis assez jaloux quand je vois certains jardiniers urbains qui habitent en Californie, par exemple, et qui ont, entre guillemets, un temps idéal pour pouvoir jardiner toute l'année. Moi, à Berlin, évidemment, j'ai... L'hiver peut être assez rude. J'ai eu quasiment du moins 15 degrés cet hiver. À moins 15 degrés, il n'y a pas grand-chose qui survit. Donc voilà. Après, j'essaye de continuer, en fait, à faire pousser toute l'année. Et je pense que ce qui est hyper gratifiant, et c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de variétés à faire pousser. C'est que, par exemple, si je prends juste les laitues, il y a des laitues, en fait, pour quasiment tous les mois, toutes les saisons. La laitue, j'en ai eu quasiment toute l'année, en fait, en switchant de variété d'été à variété d'automne à variété d'hiver. Même les radis, j'ai eu aussi des radis blancs de Munich, qui sont plus des radis, en fait, qui poussent pendant l'hiver. Donc ouais, honnêtement, on peut faire quasiment pousser toute l'année. Après, ça demande plus de temps, je pense, sur les saisons fraîches où il faut protéger ces plantations. Donc avoir des voiles d'hivernage, avoir des tables de jardinage avec des couvercles où on peut protéger ces cultures. Mais si on a envie, en tout cas, et si on a la passion, on peut vraiment, je pense, explorer toute l'année. Et encore une fois, c'est top de pouvoir voir tant de variétés possibles, parce qu'elles sont toutes différentes en termes de texture, la manière dont elles poussent, la couleur, le goût. Donc ouais, c'est une belle aventure à travers les saisons. Ouais.
Super. En termes de petits soucis, on sait qu'on en rencontre tous, et tu sais, c'est ce que tu nous partageais d'ailleurs dans tes chroniques dans le magazine. Qu'est-ce que tu as rencontré en tant que jardinier débutant ou jardinier tout court d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a donné du fil à retordre et comment t'as pu y faire face?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
C'est normal. Aucun jardinier jardine sans encombre. Ça serait bizarre d'ailleurs. Ça voudrait dire que c'est peut-être pas très naturel.
Exactement, ouais. Il y a toujours des imprévus, mais après, bon, c'est ce qui fait aussi le charme justement du jardinage. Je pense que les premières déconvenues que j'ai eues, c'est les pucerons, évidemment, je pense que on apprend vite la leçon, et je pense que les pucerons, au début, on n'observe pas trop ces plantes. On les voit pas, en fait, parce qu'ils arrivent très bien à se cacher sous les feuilles, près des tiges. Et puis, la plupart du temps, ils sont verts sur une tige ou une plante qui est verte, donc on les voit pas bien. Et puis, au bout de quelques jours, on voit que la plante va pas bien. Et puis, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai arrosé, tout s'est bien passé, j'ai ajouté du fertilisant, elle est au soleil, tout va bien. Et puis, après, on regarde un peu plus près et on voit tous ces pucerons. Et du coup, je pense que c'est une de mes leçons. Ça a été, ouais, j'étais super content de faire pousser un super joli concombre qui se développait extrêmement bien. Sauf que j'ai laissé les pucerons en fait vraiment dévorer et prendre la sève entre guillemets de la plante. Quoi. Donc je pense que les pucerons ça a été un gros choc au début. Et puis il y en a plein. Ça se développe extrêmement vite, donc faut faire attention. Et après, comment on les traite, je dirais d'une manière assez simple en fait. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin évidemment de pesticides ou de produits chimiques ou autres. Déjà, il y a un allié de taille contre les pucerons, la coccinelle, qui peut en manger, je crois, c'est entre 100 et 150 par jour, pucerons par jour à taille adulte. Donc, en gros, soyons contents quand on a des coccinelles dans son potager, parce qu'on sait qu'elles vont s'occuper des pucerons. Après, honnêtement, moi, ce que j'adore faire aussi, pour les traiter, je prends une brosse à dents, en fait, à fil souple. Mm-hmm. Je mets un peu d'eau, un peu de savon, et du coup, je brosse, en fait, la plante là où il y a énormément de pucerons. Et en fait, le savon agit, en fait, comme un espèce d'insecticide naturel sur les pucerons. Et après, faut pas hésiter, en fait, à secouer la tige, pas hésiter même avec les mains à les écraser, etc. Au final, un puceron qui tombe par terre, il va pas retrouver son chemin si facilement que ça. Donc, rien qu'en secouant un petit peu la plante, on arrive à y faire face, quoi.
Mm. Ouais, le savon noir en général, ça marche bien avec les pucerons, en effet.
Ouais, exactement. Et je pense que la deuxième chose, ouais, où pareil, j'ai eu une grosse surprise, c'est l'oïdium sur les courgettes. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas l'oïdium, c'est un espèce de champignon en fait qui se développe sur les feuilles des courgettes, et on peut le voir en fait à travers ça fait des espèces d'amas blancs en fait, donc des petites taches blanches sur la feuille. Et pareil, si on traite pas assez rapidement, ça peut se développer extrêmement vite. Donc, je pense que là, il y a plein de solutions naturelles. Moi, personnellement, je brosse en fait la feuille qui est infectée. Si elle est trop infectée, en fait, j'hésite pas à couper la feuille. Et je pense que j'ai fait l'erreur avant d'attendre trop de temps, et du coup le champignon en fait va envahir toute la plante, quoi. Donc quand on voit ces premières traces, faut aussi pas trop hésiter parfois à couper plutôt que de laisser la plante se développer.
Ouais, les champignons, ça peut se propager très très vite, effectivement.
Ouais.
Aujourd'hui, tu entames ta troisième année de jardinage, du coup. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ton potager urbain aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au début ? Qu'est-ce que tu as appris dans ces trois années de jardinage ? Et qu'est-ce qu'il te reste à apprendre ?
Du coup, honnêtement, j'apprends tous les jours quasiment. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que rien ne se passe forcément comme prévu. Et c'est ça qui fait le charme aussi du jardinage. Et du coup, à l'heure actuelle, en fait, je pense que ce qui a changé à travers ces trois ans, c'est les variétés en fait que je fais pousser. Plus on est confiant entre guillemets, on arrive à développer en fait ces variétés en fait de prédilection. Et donc, quand on commence à faire pousser une ou deux tomates et qu'après on va sur on regarde sur internet les centaines, les milliers de variétés de tomates, c'est juste génial, quoi, parce que du coup on a envie de développer de nouvelles, enfin de faire pousser de nouvelles variétés. Et elles sont tellement différentes en termes de goût, en termes de couleur, que, enfin voilà, moi ça, honnêtement ça me fascine quoi. Et du coup donc je pense que ouais, en 3 ans de jardinage ou 2 ans et demi, on fait pousser beaucoup plus de variétés. On a envie d'avoir des variétés un petit peu fun quoi. Donc des tomates par exemple qui vont être plutôt noires, des tomates qui vont être en forme de poire, des petites tomates cerises vertes et qui sont délicieuses. D'ailleurs, je conseille à tout le monde les Verde Claro. C'est ma tomate de prédilection. Et donc voilà. Donc je pense que c'est on apprend en fait à faire pousser beaucoup de variétés. Et puis je pense qu'on apprend en fait sur le tas quoi. On apprend énormément sur le tas. Et je pense que ce qui est, enfin là où c'est le jardinage est quelque chose qui s'apprend vraiment sur la durée, c'est que il y a toujours en fait une petite dose de technique, par exemple comme le pH du sol, comme le pH de l'eau, qui sont en fait des techniques plus avancées que je commence à apprendre et que j'essaye de développer et d'adapter en fait dans mon potager.
Ok. Et du coup, tu nous as pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans ton potager urbain aujourd'hui ? Fais-nous une petite description là qu'on se l'imagine.
Du coup, j'ai pas mal de tables de jardinage, pas mal de pots. Donc, en effet, à l'heure actuelle, là maintenant, évidemment, tous mes semis sont à l'intérieur. Tous mes semis, donc là, j'ai aubergines, courgettes, tomates. Donc ça, je dirais que c'est les principaux. Là, j'essaye aussi de commencer avec de la blette, parce que ça me fascine. Je trouve ça hyper beau. En plus, c'est multicolore, etc. Donc c'est très beau. Je fais pousser évidemment des poivrons. Cette année, je me suis mis aussi un challenge. J'ai envie de faire pousser de l'edamame. Donc j'ai acheté des graines d'edamame et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je fais aussi pousser des pois en fait, donc des petits pois. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé l'année dernière et du coup j'ai acheté 2 nouvelles variétés cette année. En fait, je me concentre vraiment sur les principales variétés. Par contre, j'ai envie de, enfin voilà, j'ai pas qu'une seule variété de tomates quoi. Je pense que j'en ai à peu près 10 ou 15 en préparation cette année. Aubergine, je dois avoir environ 4 variétés. Courgettes, j'en ai 4 aussi. Poivrons, j'en ai 5 différentes. Donc voilà. Et en plus de tout ça, évidemment, du chou kale, de la laitue, des radis, quoi d'autre.
Des fleurs peut-être.
Évidemment. Les fleurs aussi, parce que c'est vrai que en fait, le jardinage, le potager est indissociable, entre guillemets, des fleurs. Quoi. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'écosystème, en fait, de la nature. C'est que c'est super d'avoir son potager, mais on ne peut pas avoir un super potager productif qui se porte bien si on n'amène pas aussi de la diversité et de la variété en termes de fleurs. Donc en effet, c'est assez lié tout ça.
Ok. Et est-ce qu'il y a certaines cultures, par contre, que tu t'interdis parce que pas adaptées au balcon ou trop difficiles peut-être, qui ne te réussissent pas ?
Je pense en fait que, par exemple, les variétés qui sont extrêmement encombrantes, comme par exemple, je pense, certaines variétés de concombres qui peuvent donner... des plantes vraiment qui sont énormes. Du coup, j'essaye de sélectionner en fait des variétés qui sont plutôt adaptées à la culture en pot. Et ça, en fait, tout le monde peut regarder. En fait, c'est souvent indiqué sur par exemple sur des sites comme la ferme de Sainte-Marthe. Ils indiquent souvent ce qui est adapté à la culture en pot. Donc, en effet, il y a certaines variétés qu'on peut pas faire pousser. Si demain je veux avoir une énorme citrouille sur mon balcon, je pense que c'est un peu compliqué de faire tout pousser en pot quoi.
Ouais, donc, c'est une bonne idée de regarder les cultures adaptées en pot, parce que certaines, voilà, soit c'est un volume de terre aussi parfois qui est très important, volume de terre nécessaire, ou des conditions de culture, en tout cas ça va pas marcher en pot, ou alors la récolte va être très très décevante, donc
Exactement.
Autant, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur balcon, autant piocher dedans.
Voilà, exactement, exactement.
Et où est-ce que tu trouves des conseils adaptés justement pour le potager de balcon spécifiquement ou pour le potager en général, mais en tout cas pour ton type de potager urbain? Tu avais parlé au début des vidéos, tu disais que tu regardais pas mal de vidéos. Est-ce que tu te renseignes auprès d'autres jardiniers, des réseaux sociaux, comment tu fais?
En fait, pas mal sur les réseaux sociaux quand même. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait qu'il y a une vraie communauté de jardiniers urbains et aussi de fans de potagers. Et c'est une communauté en fait qui est extrêmement cool. Du coup, quand on a un problème ou autre, on peut toujours poser des questions. On peut aussi regarder, s'inspirer sur d'autres comptes, qui fait que en fait, on arrive à avoir sur des vidéos parfois très courtes ou des images avec une bonne explication, on arrive à avoir énormément d'infos en suivant les aventures en fait, d'un autre jardinier urbain ou de quelqu'un qui a son vrai potager ou son vrai carré de potager en jardin. Après, ouais, YouTube, il y a énormément aussi de vidéos qui sont très bien faites et très accessibles. Donc voilà, c'est principalement ouais, mes sources d'informations. Ouais.
Et alors, à ton tour, est-ce que tu aurais des conseils à transmettre à quelqu'un qui voudrait se lancer pour réussir son premier potager urbain?
Il y en a beaucoup, mais si je dois vraiment résumer, pour moi, le plus important, c'est la qualité du sol. Et je pense que c'est vraiment la condition sine qua non pour avoir un potager de qualité et pour faire en sorte que on met toutes les chances de son côté dès le début. Il y a souvent, en fait, avant de jardiner, pour un débutant, il faut juste savoir en fait, qu'un sol, un nouveau sol qu'on va acheter, il n'a que 6 semaines en fait, de nutriments dans son sol. Quoi. Donc après les 6 semaines, il va falloir enrichir le sol, il va falloir le nourrir. Donc si en plus de ça, le sol qu'on achète n'est pas un terreau de qualité, ça va amenuiser nos chances. Donc je pense que vraiment, choisir un terreau organique, évidemment organique et naturel, et en plus qui est vraiment fait pour le potager, permet en fait de démarrer déjà avec un sol de qualité et d'avoir ses premiers succès. Et au fur et à mesure, on apprend à enrichir son sol, on apprend à faire son compost, à mélanger le compost avec son sol. Et en fait, petit à petit, on apprend très vite en fait des techniques extrêmement simple, extrêmement accessible et qui tombe sous le sens. Mais sans un terreau de qualité, on ne peut pas commencer à faire pousser un potager sain et qui donnera aussi de la nourriture de qualité.
Et d'ailleurs, tu parles de compost, comment tu fais toi en appartement? On a beaucoup de jardiniers qui se posent la question, alors qui savent qu'il y a des solutions qui existent, mais c'est pas toujours très facile, on n'ose pas se lancer. Comment tu fais toi pour le compost?
Le bokashi, donc le compost bokashi, j'ai commencé en fait avec ça et c'est extrêmement simple. Si on a un tout petit balcon ici, en fait ça a la taille d'un pot hein, voilà, ça prend pas de place et dès qu'on a des épluchures, dès qu'on a des parties en fait de certains légumes qu'on mange pas, plutôt que de les jeter à la poubelle, on les met dans le compost. Et ce compost bokashi permet toutes les semaines d'avoir au moins une à deux fois du jus de compost, qui est un super fertilisant, riche et naturel pour la terre. Et en plus de ça, quand le bokashi en fait, est plein, on peut prendre en fait, le digesta en fait, donc toute la matière en fait décomposée.
Qui a été décomposée.
Exactement, et après on peut le mélanger avec sa terre par exemple. Donc le bokashi compost honnêtement est une méthode hyper accessible pour un petit espace et qui marche vraiment excessivement bien.
Super. Alors toi tu es jardinier amateur on va dire, dans le sens où tu as un boulot à temps plein à côté, c'est pas ton occupation principale, comment tu t'organises pour jardiner en plus de cette occupation à temps plein, parce qu'on sait que ça prend quand même du temps?
Pour moi c'est un peu, c'est une passion et je dirais que c'est aussi une sorte de méditation en fait pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai ma journée stressante du boulot, après cette journée, aller justement regarder comment poussent mes laitues, travailler un peu le sol, améliorer par exemple les certaines le placement de certaines plantes, les arroser, enfin pour moi c'est un peu ma méditation. Donc c'est un peu c'est une vraie passion et je pense que je trouve beaucoup de calme et j'évacue en fait énormément mon stress à travers le jardinage. Donc ça prend du temps mais ça a un tel bienfait sur mon quotidien que je suis ravi de donner énormément de temps
tu
à cette passion.
Facilement le temps. Tu vas un petit peu tous les jours du coup, c'est ça? Tous les jours un petit tour des plantes et puis le week-end peut-être un peu plus de soins.
Oui, voilà, ouais, c'est je dirais que le travail de fond entre guillemets, je le fais beaucoup plus le week-end. La semaine j'ai moins de temps, mais je vais juste vérifier que tout va bien et puis ça fait juste du bien à la fin d'une journée, si j'ai le temps d'aller planter quelques laitues ou de récolter une laitue et quelques radis, je suis l'homme le plus heureux du monde.
Mais justement, tu dis que le jardinage, ça t'amène du bonheur, une forme de méditation. Est-ce que tu as remarqué que ça avait eu peut-être des impacts sur d'autres aspects de ta vie finalement? Je pense à ta façon de consommer, à ta façon de vivre ou de cuisiner.
En fait, on s'en rend pas compte au début, mais ça a un énorme impact. Parce que quand on arrive en fait à prendre en compte en fait l'écosystème, en fait, faire pousser de la nourriture, cultiver ses propres plantes, on a besoin en fait de tout l'écosystème naturel. C'est-à-dire qu'on a besoin des coccinelles, on a besoin des pollinisateurs, on a besoin d'avoir une terre qui est organique. Et tout ça combiné va donner lieu en fait à des produits et à de la nourriture saine. Du coup, quand après on se retrouve dans un supermarché et qu'on se dit et qu'on voit une tomate ou qu'on voit une aubergine, on se dit mais comment elle a été produite en fait? Mais du coup, elle est peut-être pas naturelle et du coup, là, je vais pas acheter ce produit parce qu'en fait, ce produit, il pollue notre planète et plus la planète va être polluée, peut-être moins je pourrais aussi faire pousser mes propres produits. Donc du coup, ça a eu vraiment un énorme impact sur ma manière de consommer au quotidien. Donc il y a beaucoup de produits que je n'achète plus. J'évite aussi d'acheter par exemple du plastique à usage unique. Donc ça a quand même beaucoup changé ma vision des choses. Et je pense qu'après il y a aussi on développe aussi une relation avec la nourriture en fait dans ce qu'on a dans l'assiette. Et je pense qu'au début, quand j'avais en face de moi, par exemple, des tomates ou des courgettes dans mon assiette, pour moi, c'est normal. C'est normal. Enfin, je l'ai acheté et puis voilà. Et puis, je ne me pose pas la question. Et en fait, quand on fait tout pousser, on développe du respect en fait, pour les légumes parce que c'est un tel effort. Quoi. Enfin, ça demande un tel effort à la plante aussi d'arriver à produire tous ces légumes. Et du coup, on les traite avec beaucoup plus de considération et de respect, je dirais.
Et on les déguste lentement et un à un.
Exactement, ouais.
Pour finir, les deux petites questions de la fin. Alors, premièrement, est-ce que tu as une reco de livres ou de documentaires à nous conseiller?
Alors, en fait, j'en ai même plusieurs, si tu me permets. Hein,
vas-y, avec grand plaisir.
Bon, ok. Donc, du coup, je dirais un livre qui m'a énormément inspiré. Il s'appelle Farm Life. Et ce livre en fait est génial parce que il fait en fait le portrait de plein de personnes à travers le monde qui ont un moment par exemple changé leur vie citadine pour aller créer une ferme, créer par exemple un gîte ou élever des alpagas ou vraiment essayer de se rapprocher de la nature. Et ce livre en fait, les photos sont hyper belles, il y a plein d'histoires différentes. Et c'est hyper inspirant en fait sur le type de profil aussi ces personnes qui ont décidé de changer leur vie, d'avoir une vie qui est plus calme, plus saine, mais de créer un projet. Et pour moi, ce livre a été vraiment hyper hyper inspirant. Donc j'ai adoré.
Super, ça a l'air chouette effectivement.
Ouais, il est très cool. Et puis je sais pas s'il est édité en français, mais il est en tout cas en anglais, c'est sûr. Si vous parlez pas anglais, rien que qu'à regarder en fait les images, déjà c'est inspirant.
D'accord, bon, donc, on regardera si on trouve la version française, puis on vous mettra les infos en barre de description.
Ouais. Et après en documentaire, j'en ai deux. Au nom de la terre, donc le film avec Guillaume Canet, d'Edouard Vergeon, qui bah, je pense, est extrêmement touchant et fait, bah, fait un constat quand même assez, assez triste, malheureusement, de la situation de nos agriculteurs. Et du coup, je pense que bah, ce documentaire, en fait, a été vraiment poignant et m'a aidé à me reconnecter un petit peu avec, avec le monde paysan, comme on peut l'appeler. Et il y a une vraie nécessité, en fait, pour soutenir nos agriculteurs qui, bah, qui nous nourrissent, quoi. Et du coup, je pense que démarrer son potager, quand on regarde aussi un film comme Au nom de la terre, ça aussi, ça développe sa conscience sur est-ce qu'il faut que je continue vraiment à acheter des produits de grande consommation ? Pas forcément, parce que ça ne m'aide pas moi et ça n'aide pas non plus nos agriculteurs qui sont au démarrage, en fait, de la chaîne alimentaire, quoi. Donc ouais, je pense que ce film a été extrêmement inspirant. Et pour finir, Terra de Yann Arthus Bertrand, qui est aussi un, je crois que c'est un film d'environ une heure, qui est super bien fait, qui explique comment la nature, en fait, a démarré, comment elle a été créée. Et c'est avec la voix de Vanessa Paradis, je crois. Bon, en tout cas, c'est très bien raconté, c'est top.
Ça donne envie. Je ne les connais pas, je me les note tout de suite. Okay. Et pour finir, Patrick, quel est ton petit conseil pour voir la vie en vert ?
Ah, voir la vie en vert, bah, démarrer son potager. Démarrer son potager de balcon, pour finir là-dessus, en fait. C'est, et j'aime bien d'ailleurs voir l'expression « voir la vie en vert ». En fait, il y a pas mal d'études qui ont justement prouvé que la vue du vert a un énorme impact, en fait, sur notre cerveau. Ça, en fait, ça transmet des sensations de sécurité, de concentration. Et en fait, rien que voir du vert, ça peut améliorer, en fait, notre quotidien. Donc, démarrer son potager de balcon, même si on a un tout petit espace, bah, ça permet quotidiennement de voir du vert. Et je pense que nos villes en ont besoin, quoi, de voir un petit peu plus de vert partout plutôt que du gris et du béton. Et je pense que voilà, le potager urbain est accessible à tout le monde et je souhaite vraiment à tout le monde de se lancer dans l'aventure et puis après pourquoi pas d'en faire une passion qui est à partager avec nos jeunes générations aussi.
Super, mais effectivement, je pense que c'est un très bon conseil. Je valide ce conseil totalement. Démarrez vos potagers, même si c'est juste 2-3 petits pots, ça compte aussi. Et bah écoute, je te remercie, Patrick, pour le temps que tu nous as accordé. Je suis sûre que ton témoignage et tes conseils vont motiver plein de monde à commencer. Donc, c'est chouette. La transmission d'expériences et de conseils, je pense, est très importante dans ce domaine. Donc, encore merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Patrick donc, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il partage beaucoup, sous le nom de @thefrenchygardener. On vous remettra tout, bien entendu, dans la barre de description de l'épisode. Et puis, à la prochaine. Salut! Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour. Alors, si comme Patrick, vous avez envie vous aussi de démarrer votre petit potager de balcon, n'hésitez pas. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, on est en mai, mais pas de panique, il est encore temps de se lancer. Donc, première étape, c'est choisir ce que vous allez planter. Le choix va se faire d'abord en fonction de l'exposition de votre balcon. Si vous avez du soleil au moins 3-4 heures dans la journée, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec à peu près toutes les variétés qui seront possibles. Si votre balcon est ombragé, il va falloir opter pour certaines variétés, comme notamment les radis, les salades, la menthe, le persil ou encore les fraisiers, qui aiment bien l'ombre. Toutes les informations se trouvent de toute façon sur les étiquettes des plants. Donc lorsque vous achetez vos plants, pensez à bien regarder les étiquettes et gardez en tête également qu'il fait souvent plus chaud sur un balcon que dans un jardin. Donc à adapter. Ensuite, si vous êtes débutant, on vous conseille d'opter pour 4-5 plantations maximum pour commencer et de choisir des légumes plutôt faciles, comme les radis, on les retrouve encore, les tomates cerises, les salades, les fraisiers, vous pouvez prendre aussi des piments, des petits poivrons et tout ce qui est herbes aromatiques. Ça vous permettra de débuter avec des choses qui sont relativement simples à faire pousser. Vous trouverez des plants tout prêts en jardinerie, chez des pépiniéristes également, au marché ou même aussi en magasin bio, vous en avez pas mal. Deuxième étape après ça, vous équipez. Donc, au niveau des pots et des jardinières, surtout pensez à ne pas prendre trop petit. Les cultures potagères ont quand même besoin d'un certain volume de terre pour donner de belles récoltes. Donc, on va dire que 30 litres pour un pot, c'est un minimum pour la plupart des cultures de taille moyenne, comme tomates cerises, aubergines, piments, même les salades. C'est bien de partir sur ça minimum, voire plus si vous faites pousser des grands légumes, bien sûr, comme des courgettes ou des concombres. Les contenants devront toujours être troués au fond pour permettre l'écoulement du surplus d'eau. Si votre balcon est petit, il faudra que vous pensiez à utiliser l'espace verticalement. Donc vous pouvez construire des jardinières verticales. Par exemple, on a un tuto sur le site pour construire une jardinière à l'aide d'une palette. C'est sympa. Vous pouvez aussi faire grimper vos légumes le long de tuteurs ou de treilles pour qu'ils montent vraiment en hauteur. Ou suspendre des pots au plafond si vous avez un balcon couvert. Sur le balcon, il faut aussi faire attention au poids de ce que vous allez mettre sur votre balcon. Donc pour limiter un petit peu le poids, une astuce consiste à privilégier les pots en géotextile, qui sont en plus un matériau très adapté aux cultures. Et autre astuce pour le balcon, si vous souhaitez suspendre des jardinières, faites-le toujours vers l'intérieur de votre balcon pour éviter des accidents en cas de vent. Toujours niveau équipement, il vous faudra ensuite du terreau et des billes d'argile. Alors niveau terreau, le mieux, on va dire, pour commencer, ça sera de partir sur du terreau pour carré potager. Ça, vous êtes sûr que vos plants ont tous les nutriments nécessaires. Mais si vous avez déjà du terreau universel ou que vous préférez acheter ça parce que c'est moins cher, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Il faudra juste l'enrichir en compost ou en engrais organique un peu plus régulièrement. Dernière étape après ça, installez vos plantations. Donc avant de commencer, il faudra faire tremper les petits godets dans un évier pour bien réhydrater la plante. Ensuite, vous garnissez le fond du pot de billes d'argile, vous remplissez votre contenant de terreau, tassez un peu et faites un trou au milieu, à peu près de la taille de la motte de votre plant. Sortez délicatement votre plante du godet plastique en pressant doucement sur les côtés du godet pour que ça sorte tout doucement sans abîmer les racines. Et puis tout simplement, installez votre plant dans le trou, rebouché de terre avec du terreau, voilà, vous comblez un petit peu le trou et vous arrosez abondamment. Surtout voilà, après la plantation, bien arrosée. Et si le terreau se tasse au moment de l'arrosage, on peut tout à fait en remettre un petit peu et arroser de nouveau. Voilà, je crois que vous savez tout, votre petit potager urbain est prêt à être lancé. Profitez-en bien et tenez-nous au courant. À plus!
La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.